Oui, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étonnement? Mais depuis qu'on a perdu la faculté que nous avions enfant de nous étonner de toutes choses, on a besoin de retrouver cet étonnement. Pourquoi? Parce que l'étonnement, c'est le surgissement de... C'est le surgissement dans la vie quotidienne de l'éruption brutale d'une expérience de quelque chose qui nous prive brusquement de tout ce qu'on savait déjà. Être étonné, être sidéré, c'est brusquement rencontrer un événement détonnant. Qui nous étonne, ça veut dire que on n'a pas ce qu'on sait déjà ne nous permet pas de comprendre cette chose qui vient d'arriver. Et l'étonnement nous fait rencontrer donc...
Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas comprendre?
C'est important parce que c'est important de réaliser qu'on peut rencontrer en nous qu'il y a du non-savoir pour décrypter le monde. Et c'est encore plus important de réaliser que, alors que nous idolâtrons notre savoir, des expériences comme celle de l'étonnement, où nous sommes confrontés à ce que nous ne savons pas, c'est encore plus étrange de découvrir que nous aimons cette expérience de dépossession de savoir. Ce qui montre, qui fait qu'on rentre là dans la véritable énigme. Comment se fait-il que l'homme, donc, et la nostalgie de l'enfance qui était étonné de toutes choses et recherche dans sa vie l'étonnement, c'est-à-dire recherche de vivre qu'au-delà de ce qu'il sait déjà, il y a un non-savoir absolu qu'il passe son temps à ignorer. Et ce non-savoir, effectivement, comme tu dis, on le rencontre que dans une expérience de nouveauté absolue.
Bon, en ce qui concerne le goût de l'étonnement, quelle différence vois-tu entre la France et le Brésil? Un des premiers pays d'ailleurs où ton livre va être édité, n'est-ce pas, le Brésil?
Déjà moi, comme la façon dont je suis peu étonné pas plus tard qu'hier, après une séance de travail entre psychanalystes, nous parlions de choses de l'étonnement. Et puis, tout de suite pour moi, pratique étonnante, des collègues psychanalystes que je ne vois pas se produire, ni pouvoir se produire dans une ville comme Paris, tout le monde s'est mis en rond et a chanté. Voilà, ça m'a étonné.
Mais à quel moment ils se sont mis à chanter?
Dans la soirée.
Tout le monde chantait,
on avait bu un verre ou deux, et puis on a chanté la bossa nova.
Pour nous, ça nous étonne qu'on puisse trouver que chanter, c'est étonnant. Alors,
d'ailleurs, à propos de ça, je trouve que le rythme de la bossa nova, dans le rythme, dans la syncope de la bossa nova, tout à fait le contraire du tango, qui est un rythme absolument pas étonnant, dans la bossa nova, il y a un contre-temps, un déhanchement, un rapport avec le temps, qui fait que ça peut être chanté doucement, sans hurler, comme on entend les rockers en Europe hurler, sans hurler, et avec un swing extraordinaire. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose de très étonnant dans la musique brésilienne. C'est la douceur du phrasé des phrases et le rythme extraordinaire qui passe. On a envie de bouger dès qu'on entend.
Mais penses-tu que les Brésiliens ont un rapport avec l'étonnement qui est différent des Français? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plus prêts au non-savoir? Ou est-ce que c'est une généralisation qui n'a aucun sens?
J'ai une amie qui m'a beaucoup parlé du brincar.
Oui.
Bon, ce que toi tu as écrit sur le Brinca, je sais que ça va dans, ça accentue et ça développe cette question. Moi, ce que je pourrais dire, c'est la, dans la rue, le fait, la façon de bouger, par exemple, des femmes quand elles marchent.
Oui.
La façon de bouger, je trouve qu'elles marchent. Pour moi, il y a ce, peut-être ce brincard dans cette façon de bouger où je vois une danse amorcée. Je suis aussi étonné, alors ça c'est autre chose, le soir en rentrant, de voir des lignes de travestis. Je me demande, qu'est-ce qui fait que c'est le Brésil qui fabrique des travestis? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour que le... Puisque les travestis de Paris viennent de Rio, les travestis de Londres aussi. Je me dis, il y a sûrement quelque chose que je ne comprends pas. Enfin...
C'est très intéressant, ce serait très bien si tu pouvais
essayer
de discuter une interprétation quelconque.
Je suis vraiment absolument pas capable. Et seulement, je
la question de la différence sexuelle est posée autrement ici, n'est-ce pas?
Voilà.
Bon. Ce livre, il est dédié à Lacan, donc il dit « La note bleue ». Alors moi, j'aimerais bien que tu nous parles du rapport, que tu parles d'abord peut-être de la note bleue, n'est-ce pas, et puis du rapport entre le psychanalyste et le musicien.
Le bouquin est dédié à mon maître, Lacan, à ma maîtresse, la note bleue, la musique, et ça m'a... amusé de les marier ensemble dans la dédicace, pas parce que je sais qu'à quand on est...
Bon alors, mais qu'est-ce que la note bleue exactement? Parle-nous de ça. Parce qu'il y a des différentes interprétations. Ce que tu dis dans ton livre, c'est pas ce que disent les musiciens sur la note bleue. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de la note bleue?
Souvent dans la musique ou dans le jazz, on parle de la blues.
Oui.
Ça, c'est une allusion au blues. Quand les musiciens parlent de la blues. La note bleue dont je parle.
Un homme de jazz m'a dit que la note bleue, c'est la note que les noirs américains ont mise à la place de la semi-tonale qu'ils n'étaient pas capables de chanter.
Exactement.
Oui.
Donc c'est une.
Une création.
C'est une création, mais une fois qu'elle est faite, maintenant, c'est tout. On la connaît, n'importe
oui.
Où, on peut la jouer.
Oui.
Elle vient un peu, la blue note, d'ailleurs, elle reprend des... C'est une note qui n'est pas dans la gamme tonale, mais ce n'est pas la note bleue dont je parle. L'idée d'associer... la couleur et une note de musique, c'est une idée que j'ai lue, qui m'est venue dans une lettre, une correspondance de Chopin, où il parle de la note bleue, c'est dans une correspondance, comme une note spéciale entre toutes les notes, une note qu'il a trouvée, même dans l'écriture, et qu'il a fait sonner après un jour, et qui est une note qui se distingue de toutes les notes, qui est spéciale. C'est la note où éclate, disons, c'est la note où éclate, quand on l'entend et quand elle sonne, éclate le maximum d'étonnement pour l'auditeur. C'est la surprise absolue.
Bon, là, tu peux enchaîner et dire, parler sur le rapport entre le psychanalyste et le musicien.
Bien, comme psychanalyste, nous vivons dans le monde des mots, et nous travaillons avec les mots, et nous savons que les mots prennent en charge ce que Lacan nous a habitués à nommer le réel. Donc il y a une certaine prise en charge de ce réel par les mots. Et l'interprétation psychanalytique a pour effet un certain type de remaniement du réel, qui, quand il a été mal symbolisé, est en souffrance dans le symptôme. Mais comme psychanalyste, on est obligé de reconnaître que le mot a des limites dans son pouvoir de symboliser le réel. Et là où le pouvoir du mot s'interrompt, commence un autre type de pouvoir qui est celui octroyé par la note de musique. Je vois un balancement entre les deux, c'est-à-dire que la musique, la note de musique peut prendre en charge quelque chose que le mot ne peut pas prendre en charge, peut relever quelque chose que le mot ne peut que laisser tomber, car ça n'est pas de son pouvoir. Et je prends un exemple caricatural, ce qu'on appelle la folie. Ce qu'on appelle la folie, à ma connaissance, je n'ai pas de connaissance d'une interprétation langagière qui puisse avoir un effet de résolution sur ce qu'on appelle une mélancolie ou un délire schizophrénique.
Mais le rapport entre le psychanalyste et le musicien est lié à... Comment articuler ça à partir de l'idée d'étonnement dont tu parlais? La note plus, c'est ce qui peut produire le plus d'étonnement, l'interprétation.
Je pose l'étonnement produit par la musique à un certain type d'étonnement produit par la parole que j'appelle la sidération. Je pose les deux. J'espère qu'un analyste est capable et d'être étonné par la musique de la voix de l'analysant et d'être sidérable par les mots qu'il fait entendre et qui ont un sens signifiant. Donc, j'oppose un peu la capacité de l'analyste à entendre la musique de la voix et à entendre le sens des mots. Entendre la musique de la voix, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Et c'est quelque chose avec quoi il est difficile de faire. Et c'est quelque chose, ce qu'on entend dans la musique de la voix, c'est un certain type de message qui nous est adressé et comment y répondre. Il m'est arrivé, je te donne un exemple, il m'est arrivé d'entendre parfois certains discours de patients qui, dans ce qu'ils disaient, étaient empreints d'une très grande tristesse, et des gens qui pensaient dans une dépression très grande. Ils l'étaient sur un certain plan, mais d'entendre en même temps, par la musique de leur voix, une très grande gaieté. Et de ce qui m'est arrivé, je pense à un cas particulier d'une femme. J'ai entendu cette disproportion entre la gaieté de la musique et la lamentation de ce qui était dit, et d'accueillir ce qu'elle disait en prenant une sorte de fou rire. Et donc finalement, elle était un peu éberluée et elle était extraordinairement soulagée que par mon rire, qui n'était pas du tout un rire moqueur, mais un rire où je recevais la gaieté qu'il y avait dans sa voix, qui contredisait complètement ce qu'elle disait, et ça lui a restitué cette gaieté qu'elle n'entendait pas elle-même, qu'elle ne savait pas.
Bon, tu es psychanalyste et dramaturge, ce qui n'est pas habituel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être l'un et l'autre, de se vouer à la psychanalyse et à l'art?
Pour moi, ce n'est pas vraiment une contradiction, parce que la conception que j'ai de la création est inhérente à la psychanalyse, je considère que dans une analyse, il se produit une création qui n'est pas fondamentalement différente de la création artistique, car c'est, je dirais, analyse, un travail qui a pour but, au-delà de la prose avec laquelle le sujet parle, de trouver, quand la prose est tombée, de trouver, de déceler les quelques mots qui sont véritablement nôtres, qui nous ont constitués, et que j'appelle le poème de chacun d'entre nous. Et quand nous avons trouvé ce poème qui nous a créés, il nous met en demeure d'être aussi créateurs et de prolonger le poème, de le continuer. Ce que nous avons de meilleur, ce sont ces quelques mots qui nous donnent la possibilité de parler avec ce qui nous parle, pas le discours tout fait du discours universitaire.
Tu as participé de la fondation de l'interassociatif. Pourquoi et comment est-il né?
Il est né
pour le public.
Tu sais qu'après la dissolution de l'école, l'école fabienne a éclaté à peu près en 12 ou 13 morceaux, que pendant des années, ces 12 ou 13 morceaux sont partis chacun pour se créer une identité, une autonomie. Quand cette identité, cette autonomie a été constituée, affirmée, s'est fait sentir un besoin de renouer des liens de parole qui avaient existé jadis, qui avaient été interrompus. Donc est apparu le besoin de renouer des liens de parole entre ces associations dispersées. Et depuis, disons, 1985, ce travail de renouage se fait progressivement. Se fait progressivement. Et finalement, après quelques années, l'évolution de ce dialogue interassociatif, qui fonctionnait d'abord dans un petit groupe qu'on appelait passerelle, créer une passerelle entre les 10 associations intéressées au départ, a débouché sur la décision d'officialiser ce lien entre entre la grande majorité des associations issues de l'école freudienne et qu'on a appelé l'interassociatif de psychanalyse, qui maintenant s'étend à une vingtaine d'associations, parce qu'il y a 10 associations européennes qui se sont adjointes à nous. L'idée, c'est de créer une communauté de psychanalystes qui ne soit pas reliée ensemble par un discours qui se tient à l'unisson, où on ne parle que pour autant que ça serait, comme je le dis, d'une seule voix. L'idée, c'est d'essayer de maintenir l'hétérogénéité de conception et théorique, et de conception institutionnelle, et de conception vers la formation d'analyste, et que quelque chose tienne néanmoins.
Et dans cela, ça s'oppose un peu à la structure de la cause freudienne.
Ça s'oppose, je crois, à ce titre, ça s'oppose beaucoup, à beaucoup de titres.
Bon. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Non. Bon. Et bon, pour finir, alors quel est l'avenir de la psychanalyse, dans ton opinion?
Écoute, je crains le pire et j'espère le meilleur pour cet avenir. Mm-hmm. Je pense que la psychanalyse que nous a passé Freud quand il a nommé pour nous une scène où il y a une parole inouïe qui se fait entendre. Je pense que cette découverte est très fragile et que dans le monde d'aujourd'hui, régi par le monde médiatique, je pense que la découverte d'un sujet de l'inconscient est à la fois une respiration d'oxygène qui nous est nécessaire et en même temps quelque chose qui peut certainement être périssable. Comme le discours tragique quand il est né en Grèce au 6e siècle, il a tenu le coup, les trois grands tragiques, il a tenu le coup un siècle, et le choc avec le discours philosophique l'a fait absolument disparaître. Il a disparu de la circulation. Il n'est revenu qu'avec Shakespeare des siècles plus tard. J'imagine que pour la psychanalyse, quelque chose pourrait se passer de comparable. C'est pourquoi je pense, je mets moi personnellement beaucoup d'efforts, et j'ai une reconnaissance immense dans Lacan. Non pas parce que Lacan a accompli un retour à Freud qui serait fait, comme certains le pensent, une fois pour toutes, et que de ce fait, il ne serait plus à refaire, mais parce que Lacan nous a montré comment chaque analyste devait faire pour lui-même ce retour à Freud, et que c'était l'éthique de chaque analyste de réinventer ce retour à Freud, sans pour autant...